Salut tout le monde, c'est Fitz le brasseur et mon ami
Kev Enfu.
On est ici présentement, on est où présentement? On est encore au brasseur, on est dans le studio de Fitz.
Et on a décidé de voyager un petit peu pour vous faire découvrir une nouvelle place qui s'appelle Kanawake Brewery.
Puis ils sont situés où, Keg? Kev, c'est Keg.
Keg.
Hein?
Keg.
Hey. On dirait Keg, que t'es rendu avec un petit Keg à place du bedon. Qu'est-ce qui se passe?
Je me laisse pas qu'elle a décidé de prendre l'expansion.
Fait qu'ils sont situés où, la microbrasserie, où qu'on est, puis avec qui qu'on est présentement?
On est directement sur la réserve de Kanawake. Ils sont situés sur la 138 à Kanawake, entre Châteauguay et à côté du Pont-Mercier, pour ceux qui veulent rejoindre très facilement. On est ici avec le propriétaire et le brasseur. C'est-tu mieux dit?
Whatever. C'est beau.
En gros, c'est un brasseur propriétaire et son assistant brasseur parce que le propriétaire n'a plus le temps de brasser.
Ça fait plus de sens.
On vous présente ici, on a Andrew ou Drew pour les intimes, Stevens avec un S, sinon il va vous le dire. Et aussi, on a aussi Christophe, qui est quelqu'un de très expérimenté, qui travaille avec Drew très amplement pour faire découvrir des excellentes bières.
Crispy. Enchanté.
Oh. Crispy, c'est ton surnom.
Crispy, le surnom, oui.
Pour quelle raison?
Il aime ça des lagers. Les lagers sont crispy.
Puis c'est quelle sorte de bière que t'as
crispy.
Quelle sorte de bière que t'aimes pas?
Ouais, je suis vraiment moins fan de bière belge, on va dire.
Alors, mon Kev, content de la découverte que t'as eue aujourd'hui?
Oui, qu'on a fait déjà des pré-dégustations pour pouvoir savoir un peu où c'est qu'on s'en allait. Moi, j'avais déjà découvert la microbrasserie avant et j'avais adoré leurs produits. Leur description est très, très... sur la coche pour être capable de goûter, pour pouvoir avoir une image de qu'est-ce que vous pré-goûtez. Beaucoup de choix. On a ici, vous pouvez confirmer, vous avez combien de tapes de disponibles?
12. Maintenant, on est rendu à 12. Juste avant toute l'affaire de COVID, on était à 10.
Tu as augmenté de 2 bières depuis le COVID?
Non, mais on a fait ça pour notre 2e anniversaire. On s'est dit, ben on va ajouter 2 autres lignes. Puis juste après ça, ben notre party de 2 ans, c'était le 14 mars. Le 15 mars, tout a chié à terre. Donc c'est,
exactement.
On a eu un party avec 12 lignes, mettons.
C'est le fun, parce que comme ça, pour les gens qui sont ouverts ou sont moins, ils connaissent moins les bières, vous avez amplement de choix, différentes sortes, pour pouvoir faire plaisir à leur palais.
T'as pas 12 New England IPA présentement sur le tap?
Non, on n'est pas assez cool pour ça.
T'as quoi présentement? Tu tiens quoi comme style environ sur ton tap normalement?
On essaie de toucher ça un peu de tout. Je veux pas dire qu'on joue le game des couleurs de la bière, mais on essaie d'avoir au moins une bière noire, une bière blonde tranquille, puis le reste, ben on s'amuse. Il y a des bières houblonnées, des bières hazy, mettons, puis jusqu'à l'autre gamme qu'on a comme des lagers plutôt clair et tout ça. Donc,
comme que je t'apprends de boire une blanche à l'hibiscus, qui est excellente en passant les boys. Vraiment, félicitations. C'est vraiment bon qu'est-ce que vous faites.
Oui, merci, okay. Merci.
Ah non, vraiment.
Dans le fond, notre focus, c'est vraiment comme... à part des bières qui passent partout, mais on traite plutôt sur des bières hazy, IPA, puis des bières super transparentes, lager. Donc,
crispy.
Crispy, c'est ça.
Je pense que c'est la seule affaire qu'il va dire le long du podcast, donc, crispy.
Oui, c'est ça. C'est comme dans toutes les 12 lignes de bière, on essaie d'avoir comme peut-être 2 à 3 IPA, puis 2 à 3 lager. Ouais. Parce que...
Pour faire plaisir à tout le monde.
Exactement.
Ben ça fait plaisir à nous-mêmes aussi. C'est comme
fait que vous brassez pour vous, en fin de compte. Puis après ça, pour le client. Fait que qu'est-ce que le goût de boire?
On brasse pour nous, puis le reste, on vend.
En fait, on a déjà des profils qui s'adaptent bien à ça. Le Drew, il est à fond dans les IPA, dans tout ce qui est très américain, donc que ce soit les IPA West Coast à l'ancienne ou les nouvelles Nord-Est. Puis moi, je suis du vieux continent, donc ça va être des lagers.
Ça paraissait vraiment pas là ton accent.
Ah ouais?
C'est pas vrai. On a l'accent québécois fort, on a le posé, l'anglophone et le vieux continent.
Comme je dis, podcast.
On a pour tous les goûts.
Ouais.
Donc de mon côté, ça va plus être des lagers très légères. Ça peut être de l'ambré, mais ça peut être la lagueur pâle comme on la connaît, la Pilsner. Mm. Donc ouais, les deux profils se complémentent pas mal au final. Puis ça nous permet d'avoir des bières assez diverses et opposées, quoi.
Mais ouais. C'est ce que le fun, quand on vient ici, on a l'embarras du choix quand même. On n'a pas 12 bières identiques, tout dépendant qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on veut découvrir. C'est une bonne place, en fin de compte, pour quelqu'un qui découvre la microbrasserie ouais. et qui veut goûter plusieurs sortes de bières. C'est vraiment intéressant de dire on a autant une lager qu'une New England, qu'une noire, qu'une Vienna, qu'une blanche à l'hibiscus. Tu sais, le tap est vraiment diversifié, puis c'est qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant d'envoyer des clients chez vous, parce qu'il paraît qu'aussi la nourriture est... excellente. Ouais. J'ai eu très, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons commentaires dessus. Autant les bières que la nourriture. Fait qu'on peut dire que vous êtes vraiment complet dans votre gamme. Puis, tu sais, ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît.
Ouais.
Pour le monde qui ne savent pas, tu sais, il était le président des Montrealers. Il s'est fait très, très beaucoup longtemps d'années qu'il brasse de la bière. Il a tout le temps brassé beaucoup de bières puis de la qualité. Puis maintenant, mais je suis vraiment content de voir la belle pyramide qu'on a au bout de notre table. Ah, raconte-nous ouais. l'histoire, comment ça partit. Au début, tu voulais pas trop en faire des cannes ou vous le saviez pas à cause des permis? Parce que sûrement que le monde se pose des questions. Là, t'as-tu un permis de brasseur, toi, ici? Parce qu'on est quand même dans une réserve.
Oui, c'est notre situation, c'est quand même unique sur la réserve. Vu que la réserve, c'est fédérale, on tombe pas nécessairement dans l'affaire de la province. Donc, on est souvent sur le capsule de bière, si tu suis un peu Pierre Clermont, on est tout le temps comme le permis bizarre dans son compte de permis. Mais juste pour dire qu'on n'a pas un permis de province, donc on ne peut pas distribuer partout.
Ouais.
C'est uniquement sur ici, sur la réserve à Kennewaukee. Mais c'est ça, c'est on a commencé ça en termes de brewpub avec vraiment la vision de juste comme partir avec des cruchons, des growlers.
Mm-hmm.
Mais là, en janvier, on a acheté une canneuse d'un autre microbrasserie à Île-Prince-à-Droit. Puis on a déjà avait cette envie de comme peut-être aller un peu plus large. Puis c'est ça. Ben,
t'arrêtes loin en Ontario?
Hein?
T'aurais-tu le droit de vendre en Ontario vu que tu as un permis fédéral et non provincial?
J'ai aucune idée.
Il y a
des avocats qui veulent comme qui veulent cette conne parce que c'est comme c'est vraiment unique.
Oui, exactement.
Puis dans le fond, ils peuvent faire plein d'argent sur nous parce que on s'est fuck on des lois et tout ça. Mais c'est vraiment comme un cas intéressant pour quelqu'un qui est un avocat qui travaille un peu dans ça, qui est peut-être passionné des bières. Appelle-moi, by the way, si t'as un bon prix, pis tout ça. Mais c'est ça, comme techniquement, est-ce qu'on peut vendre ça partout au Canada? Techniquement, je pense que oui. Mais est-ce que ça tombe dans un peu comme des SAQ, des LCBO, des affaires de même? Peut-être. Est-ce qu'on a envie que nos bières meurent sur des planchers d'un SAQ? Pas nécessairement. Donc, honnêtement, on est rendu à un stade que, ben, en canné, c'est super nouveau pour nous aussi. Donc, on va prendre ça une étape à la fois. On a tout le temps fait ça de même. C'est ça. C'est fun de voir nos produits dans un autre contenant qu'un cruchon.
Ça veut dire que moi, qui habite hors de la réserve, j'ai le droit de venir chercher des cannes ici en boutique.
Oui, bien sûr. Puis, grâce à COVID, si on peut dire ça, on a changé.
Thanks COVID.
Thanks COVID. Ça a vraiment comme expédié des affaires pour nous, surtout notre site web, que maintenant les gens peuvent commander pas juste la bière, mais aussi la bouffe, puis choisir la date, puis l'heure qu'il veut pointer ici pour ramasser, parce que le bar, présentement, il n'est pas ouvert aux gens pour...
pour consommer à l'intérieur.
Ouais,
présentement, c'est juste du take-out que vous avez.
Oui, c'est du take-out, mais tu sais, les canettes, ça se transporte pas bien, donc on est content avec ça, puis c'est quelque chose qu'on a envie de comme continuer à full pin. Mais aussi, ça donne aussi un peu la chance de... Oui, on a 12 taps sur le mur. Donc, techniquement, on peut mettre des bières en canette puis même pas en
tap.
En tap. Donc, techniquement, on peut aller à 15 bières.
Avec quelqu'un qui veut commander, c'est quoi le procédure? Qu'est-ce que les gens doivent faire pour dire je veux chercher de la bouffe et de la bière ici vu que vous êtes fermé?
Tu tapes deux fois dans ta tête, Aubergiste, apporte à boire!
Dans le fond, c'est par téléphone ou par Internet. Il y a beaucoup de gens qui commandent par Internet. Puis tous nos produits sont disponibles sur notre site web, même des T-shirts, des casquettes, toute la bouffe aussi. Puis surtout les bières, on a des bières spéciaux qu'on a faites pour notre deuxième anniversaire, qui était comme coupé un peu court.
Ouais, ça a duré une journée.
Donc, c'est ça, on a même nos bouteilles puis nos canettes quand ça va être disponible. C'est pas une grande production, donc c'est...
ça part assez vite.
Ça part assez vite.
Mais vous êtes très bien adapté au changement versus les limites de contact.
Je t'arrête 30 secondes. Là. Ça fait combien de temps qu'on fait le podcast?
C'est pas on
jase.
Ça fait
environ 10-15 minutes qu'on fait le podcast. T'as-tu remarqué qu'ils parlent français, les autres? On est sur la réserve, puis il y a du monde qui parle français. Oui, ça veut-tu dire que quand on vient ici, on peut être servi en français?
Tabarnak de tabarnak.
Bien, il y a beaucoup de personnes que, eux, par manque de connaissances, corrige-moi si j'ai tort, la première langue sur la réserve, c'est le Mohawk.
C'est l'anglais.
Ben,
ou plus à cette heure.
Ouais, c'est plutôt anglais.
C'est plus anglais.
Il y a des gens... C'est un peu comme...
Montréal.
Les Mohawks sont beaucoup comme des Québécois en termes de préserver leur langage. Donc, il y a des gens qui poussent vraiment fort. Il y a des écoles ici, comme école primaire et secondaire, tout ça, qui poussent vraiment comme il y a des cours de Mohawk, tout ça, pour protéger leur langue. Parce que c'est.
Mm-hmm. C'est important.
On s'entend, c'est comme la seule place que tu vas écouter, entendre du Mohawk. Même en Ontario, encore plus loin, il y a très peu d'Iroquois qui vont
continuer à
parler. Donc, c'est très important, juste comme pour des Québécois de parler encore
français ou
français. Ben, Québécois.
Québécois, oui.
Ouais, non,
c'est
mais
vraiment une langue, là.
C'est pas la même langue.
Toi, t'as vécu pas mal en France, mais pour... continuer à parler comme le bon français québécois. Ouais, la joie.
Ben, ouais, exactement. C'est ça.
Bon, on a notre façon de parler qui est très unique à nous, mais pour pouvoir nous comprendre, faut passer du temps avec nous.
Ouais.
Non, mais c'est comme si on parle des pays nordiques aussi. C'est comme c'est devenu de une affaire viking, si on veut, ou quelque chose comme ça.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
Oh, ouais, c'est ça. Mais mettons Islande, Norvège, Suède, tout ça, c'est comme ça vient de tout le même langage, mais ils ont comme leur façon à parler. Puis c'est bien correct. C'est comme même en France, il y a France-Français. Puis au Québec, il y a Québec-Français aussi.
Les Parisiens, il y a le français du Sud.
Donc, ici, sur la réserve, ils parlent anglais. Il y a beaucoup de gens qui savent, puis ils essaient de continuer le Mohawk, puis tout ça. Ici, dans notre brasserie, on a... on essaie d'engager du monde qui parle aussi français ou au moins peut comprendre puis prendre tes commandes puis au moins répondre tes questions en français.
Mais moi, je suis venu souvent ici.
Puis on a des francophones qui travaillent pour nous aussi.
Oui, je suis venu souvent ici. Puis la première fois que j'étais venu, je ne t'avais même pas appelé.
Ouais.
Puis j'étais avec ma blonde, tu sais, puis on est venu. Puis j'étais vraiment étonné de voir que je me faisais répondre en français puis qu'ils nous avaient entendu parler en français.
Ouais.
Puis la première langue qu'ils nous ont parlé, c'est français. Puis j'ai fait comme « wow ».
Parce que c'est le fun pour les gens qui pensent peut-être avoir une barrière de langue puis ils n'oseraient pas venir ici simplement parce qu'ils disent « ben on parle peut-être pas la même langue puis il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas une deuxième langue.
Ouais. »
Et sachant qu'ils peuvent venir découvrir vos produits, de voir vivre l'expérience ici éventuellement, mais à moins qu'ils veulent plus l'apporter, ça c'est super simple en ligne.
Ouais.
Mais c'est le fun de dire que vous êtes organisé en conséquence que n'importe qui peut venir ici et goûter à vos produits.
Oui, oui, non. Puis ça, c'est l'affaire la plus importante parce qu'on sait que le monde de bière, c'est les gens qui aiment voyager, découvrir d'autres produits. Comme maintenant avec COVID, je ne sais pas combien d'amis que j'ai sur Facebook qui voyagent en Gaspésie pour au lac ou quelque chose comme ça pour découvrir d'autres bières. Mm-hmm. Donc, les gens se promènent pour la bière, puis c'est... On est tous ici, mais on s'entend qu'il y a un amour pour la bière. Puis, dans le fond, on s'en fout un peu comme quel langage que tu parles, parce qu'il y a des gens, avant COVID, qui voyageaient en New York ou surtout Vermont pour chercher de la bière. Puis, hey, j'en ai fait la route en Vermont, puis de comme aller à des places assez creux, tout ça, puis t'entends « Yes, I will take IPA 3 », you know? Puis t'entends l'accent, c'est comme « C'est un Québécois, tu jases un peu avec, puis oui, il vient de... je sais pas où. »
Sherbrooke,
ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Les gens se voyagent pour la bière, puis c'est bien correct.
Et moi, ce que je veux savoir, c'est que je veux que tu parles de toi. Ben, de vous.
Christophe, premièrement, ça fait combien de temps que tu es au Canada, au Canada-Québec?
Canada-Québec, à Montréal même, ça va faire 2 ans et demi presque aujourd'hui.
Juste pour spécifier à tout le monde, ne fiez-vous pas à son accent, il n'est pas un Français.
À moitié.
À moitié.
J'ai la nationalité française, mais surtout la nationalité tchèque. Donc, je suis né à Prague.
T'es né
à Prague?
Je suis
né à Prague, en République tchèque, où j'habitais jusqu'à mes 8 ans. Hein. Donc, j'ai fait les premières 2 années d'école en Tchéquie. J'ai pas commencé à boire de la bière encore là-bas parce que j'avais que 8 ans, mais ça allait arriver bientôt.
Oui, oui. Mais déjà à 8 ans, tu étais un petit peu en retard sur le reste de la population de ne pas avoir déjà consommé une première bière.
Un petit peu, hein. C'était dur à assumer.
Et que tu es parti vivre en France par la suite?
Exactement.
Pendant combien de temps?
On va dire un grand 16-17 ans, ouais, à peu près.
OK, quand même assez longtemps.
Dans quelle région de France tu étais?
Dans la banlieue parisienne, puis après vers Strasbourg, donc proche de l'Allemagne. J'ai dû bouger pour la bière, hein, parce qu'à Paris,
il n'y a pas grand-chose.
Oublie ça.
Et que de ton expérience de travail, c'est quoi, où c'est que tu as commencé? Est-ce un passionné de bière? Est-ce que tu as commencé ici? Est-ce que tu avais commencé en Europe
oui,
déjà?
Oui, ben, forcément, les racines tchèques, elles ont beaucoup joué. Hein. J'ai baigné dans la bière depuis que j'étais comme Obélix en France. Moi,
t'as tombé
la
dedans
bière.
Quand tu étais petit?
Exactement. Puis avec mon père, un jour, on s'est commandé pour Noël un kit pour commencer à brasser de la bière, un peu comme plein de brasseurs en brasserie, micro-brasserie, ils commencent par là. Puis ensuite, c'est les études qui ont suivi. Donc moi, j'ai fait des études d'agroalimentaire, donc focalisé sur un peu les biotechnologies. Donc ça fait que la bière, ça rentre exactement dans ce domaine-là. Puis à partir de mes premiers stages que j'ai pu chercher, c'était toujours dans la bière. Donc j'ai commencé chez Pilsner Urquell en République tchèque, à Pilsen, où j'ai passé
quand
3 mois.
Quand même une bonne école.
Ouais, c'est une très, très bonne école avec une très bonne bière. Ouais.
Je pense qu'il fait juste... Un petit bière...
Pas très connu, hein, ouais. c'est artisanal. Puis à partir de là, ouais, ça s'est enchaîné, c'était que des brasseries, puis j'ai fini chez Heineken à Strasbourg.
Si vous ne connaissez pas Heineken, là, arrêtez le podcast tout de suite, puis changez.
Ouais.
Ça reste une bière correcte, mais bon, c'est du gros, de la grosse artillerie, quoi. Mais bon, après un an et demi chez Heineken, ma copine qui a bougé sur Montréal, je me suis dit que c'était l'occasion de rentrer vraiment à fond dans le monde de la bière artisanale.
Je t'aime, chérie.
Bisous. Et puis, c'est là que l'occasion s'est présentée d'arriver ici, à Kanawake, chez Drew, et puis une microbrasserie qui venait d'être ouverte. Et...
Parce que c'est un gros changement de dire qu'on change, t'as changé de pays une fois, mais là, tu rechanges de pays une deuxième fois.
Non, en plus, tu vas dans une réserve américaine.
Je m'en rappelle de recevoir son CV, c'est comme... Non, trop expérimenté, tu sais, comme il a trop d'expérience, puis tout ça. Mais il travaille juste que dans les grosses brasseries, Urquell, puis Heineken, puis il a voyagé un peu le monde avec Heineken en plus.
Petit tour par Abbeyne-Bev ici, mais on va pas le mentionner.
OK. Mais non, c'est comme. Puis les autres gens qui ont appliqué pour la job, c'était comme des homebrewers, c'est comme des gens qui travaillent, qui brassent à la maison.
Bien, là.
Non, c'est comme, ben, c'est plutôt ça que... J'aime beaucoup son expérience, mais c'est comme...
Qu'est-ce qu'il va faire ici, quoi?
Ouais, ben, logiquement, c'est comme...
Il va te coûter cher.
Aussi.
Puis, on avait... Ben, merci COVID, on n'a pas de budget. Mais c'est, on n'avait pas beaucoup de budget avant, puis...
Fait que là, ça fait ça. 2 ans qu'ils travaillent pour toi gratuitement, tu es en train de dire.
Oui, oui, c'est ça.
Ah,
c'est
la
ça.
Bière, c'est mon salaire, puis de ouais. voir les clients heureux, ça me...
Ouais, ouais.
Fait que t'arrives à la maison, chérie, déjeuner, bière, dîner, en bière...
Ouais. Une ça chance, nourrit, c'est Ed hein, qui fait pas mal. Non, mais c'est ça, c'est comme, tu sais, en aimant quelqu'un avec l'expérience dans ce domaine-là, puis surtout avec des grandes brasseries, tout ça... C'est, ça augmente vraiment comme...
la qualité du produit.
Oui, ouais, la qualité, puis comme vraiment comme de checker tout. Et, je me rappelle d'avoir un fiche de brassage assez basic. Là, c'est comme c'est rendu vraiment comme plus... Il y a beaucoup de plus de détails qu'on check, tout ça. Pis,
la moitié des cases, on ne les remplit pas au brassage, mais elles sont
ouais,
là.
elles sont là. Mais non, c'est ça, c'est comme c'est quand même fun de checker ces affaires-là, puis c'est des affaires que...
Mais moi, d'avoir quelqu'un qui vient d'Europe aussi, qui a goûté plusieurs produits dans un autre continent que nous, qu'on a ouais. un petit peu moins voyagé
première
dans ce
fois que j'ai vu Drew brasser une Hazy IPA, j'étais là, mais...
Mais ça, c'est la première bière qu'on a brassée, c'est cette bière-là. En canette, c'était...
C'est
comme, OK, ben ça, c'est Beast, c'est un New England IPA. C'est quoi un New England IPA? Il fallait expliquer. C'est comme, ah, c'est une bière super trouble, vraiment houblonnée. Puis il n'y a pas de logique.
Houblonnée, je veux bien, mais ça ressemble à marre de ton mou, là.
Ouais, c'est ouais.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu viens de passer d'un extrême de Pilsner Urquell qui est ultra... Oui. Léger, goûteuse et très clean et crisp.
Limpide, transparent.
À quelque chose qui est totalement chaotique.
Donc j'étais là, comment tu peux vendre ça? Les gens, ils veulent boire un truc qui ressemble à un jus trouble. Et en fait, c'est crissement bon, quoi.
C'était là ton clash culturel. Ouais. C'était dans la bière.
Ouais.
Là, il va dire, ça goûte en plus les jus de fruits. Voyons donc, il n'y a personne qui va vouloir ça.
Ça reste de la bière, ça?
Ouais. Ben, disons que côté culture, la New England IPA en Amérique du Nord a fait découvrir la bière à beaucoup de personnes qui avaient une idée déjà fermée des brasseries déjà très commerciales. Et que les lagers, que les gens sont habitués, vu qu'ils boivent ça, ils ont une idée, c'est ça que ça goûte la bière, donc j'aime pas la bière. Et généralement, au même principe qu'on avait déjà parlé, le vin, la première fois qu'on aime pas le vin, on dégoûte ça, on aime le vin sucré et notre goût se développe. Mais
non,
c'était,
j'aime pas le vin sucré.
Non, tu te trompes pas, toi. T'es une case à part, t'es spécial,
moi,
t'es
j'aime
super
ça
actif.
Comme... Bien corsé.
Oui.
Ouais, moussi, exactement.
C'est corsé, boisé, punché. Mais au niveau de la bière, pour ceux qui n'aimaient pas la bière, c'est une nouvelle introduction. Puis par la suite, en ayant enlevé des préjugés, on va découvrir les autres saveurs, les autres possibilités.
Ouais.
Et que, en fin de compte, vous avez un nouveau client
mais
grâce à ça.
C'est très drôle parce que quand lui il sort dans d'autres micros, d'autres bars, tout ça, lui, il cherche les New England, les IPA hazy, pis tout ça. Puis moi, quand je sors, je cherche plutôt des lagers, pis tout ça. Comme, oui, c'est une bière foncée. Ça a l'air d'un stout, mais c'est un lager noir. Puis,
le style?
Ben, moi, comme quand je commande quelque chose, là, je cherche juste des lagers parce que je sais que lundi, on va comme jaser un peu qu'est-ce que t'as fait ton week-end. Puis moi, je dis, ah ben, j'ai goûté cette lager-là, j'ai goûté cette lager-là. Ah, ouais. Puis on peut comparer. Puis lui, c'est d'autres parce que.
Je suis passé de l'autre bord, moi.
Ouais, ouais. il cherche plutôt des affaires hazy pour qu'on peut comparer. Et oui, on cherche aussi des bières qui. On peut comparer nos bières contre.
Oui, mais c'est la meilleure façon de vérifier le marché aussi.
Ouais.
Goûter, se goûter, puis vérifier qu'est-ce qui marche sur le marché.
Ouais.
Si tu vas chercher les plus populaires qui font des New England IPA, puis tu te compares.
Exactement.
Ouais. Des fois, tu peux dire, OK, on peut encore... Tu sais, peut-être que toi, tu n'auras pas poussé la note aussi élevée que ça à cause de ta culture ou de la bière. Mais eux, ils le font, puis ça fonctionne. Fait que tu peux dire, OK, on peut encore en mettre un peu plus de houblon.
Bien sûr. Mais je dirais, comme chaque semaine, on fait une dégustation aveugle.
Ben,
aveugle. Comme mettons,
un
lui
coup
bien achète,
jamais
de lui, lui achète une coupe de bière ou moi, j'achète une coupe de bière. On va faire ça un peu aveugle contre une bière qui est similaire. Mettons, on passe sur une affaire des lagers viennent. On va acheter comme quelque chose.
Excellent d'avoir ça. Oui, non, merci. Bravo.
C'est pour ça que j'ai
Lager
comme
excellent.
Segway de là-dedans. Non, mais mettons, si on fait un post sur des lagers viennent, mais on a envie de faire ça, ben, ou on a déjà fait ça, puis on veut voir où notre vienne est
où on se trouve par rapport aux autres. On va acheter toutes les lagers viennoises qu'on trouve dans les dépanneurs bières, puis on se fait une dégustation.
Puis souvent, on est dans votre coin de bière à boire.
Il y a une belle variété, hein?
Oui. Très sympa. C'est comme, on veut toutes tes lagers viennent, puis ils nous aident, puis on cherche toutes les...
Puis là, deux minutes après, je vais le voir ton dire, « Bon, je veux toutes les levures à lager que tu peux avoir, tu les viennes, tu les ça. » Puis je suis comme, « OK, là, il est parti sur un trip de style, qu'il faut qu'il fasse des tests absolument. »
Mais c'est un bel apprentissage, parce qu'en même temps, goûter qu'est-ce qui est sur le marché, on va comparer. J'ai fait la même chose avant de faire une recette. Un exemple, j'ai fait une colche, j'ai acheté 4-5 colches. Il n'y en a pas une qui va goûter pareil. Avec chacun un peu leur recette, leur tweak, puis à savoir comme qu'est-ce qui vient vous chercher vous parce que vous avez vos goûts personnels.
Voilà.
Et en même temps, qu'est-ce que vous allez être capable de vendre pour dire que les gens vont venir ou comment vous réinventer. Ouais. Je veux pas goûter exactement qu'est-ce qui est sur le marché. Vous allez avoir vos recettes, vos expériences. Et c'est le fun de pouvoir dire, OK, eux ont eu telle idée, moi, voici qu'est-ce que je vais faire. Vous allez avoir votre touche personnelle.
Oui, c'est ça. Tout est dans l'interprétation. La New England IPA, bon, ça vient d'ici, donc on sait vraiment juger. Les lagers allemandes, les lagers tchèques, il faut vraiment aller sur place pour les goûter.
Mais t'es venu avec l'expérience, toi.
C'est pour ça que...
Mais c'est vrai quand même.
Et donc après, ce qu'on goûte ici, ça reste des interprétations du style d'origine. Et donc, ah oui, lui, il l'a préféré comme ça, lui, il l'a préféré comme ça. Où est-ce qu'on va aller, nous? Donc, ça, c'est aussi là, c'est pas juste pour juger. Elle est bonne, elle est pas bonne. C'est juste, ah tiens, eux, ils font ça, eux, ils font comme ça. Où est-ce qu'on va se placer?
En même temps, oui, on a... Ben, lui, plus une connaissance de où ça vient, toutes les lagers, puis tout ça. Mais de aussi... fitter ça dans des produits québécois aussi. Mm. Tu sais, nous, on achète beaucoup de Innomat de Sherbrooke, puis dans le fond, c'est comme, c'est sûr que c'est pas du Wireman ou...
Ils sont pas mal dans le style, là.
Oh non, ça, ils font des super belles... Ben, on l'utilise encore. Là.
Ah, des Allemands, oui, bien sûr. Ouais. Ah, ben, oui,
pour une malterie québécoise...
Ah, Innomalt, tu parles.
Innomalt, ils sont vraiment comme haut la coche.
Mais parce que déjà, ils ont plusieurs types de pilsner. Tu as le pilsner moderne, le pilsner traditionnel. Ça te permet de déjà faire des bières différentes qui sont plus adaptées, plus proches des styles originaires.
Mais tu peux plus jouer avec tes décoctions ou tes températures.
Avec ton process de brassage, exactement. Finalement. Oui.
Ouais. Ben, c'est drôle parce que notre ESB, par contre, c'est un style anglaise. Mais c'est fait 100% québécoise.
Avec le pâle anglais?
Avec le
pâle anglais d'Innomalt.
Le pâle anglais d'Innomalt, puis on utilise beaucoup de Malbrou.
Excusez-moi de couper, mais le pâle anglais est maintenant disponible. Il a tout le temps été disponible à la boutique du brasseur Adelson. Ça fait présentement une demi-heure, 45 minutes qu'on vous parle et je n'ai pas encore plugué ma boutique que je fais d'habitude aux 15 minutes. Alors, l'Innomalt que Drew parle est disponible au brasseur. Et tu peux continuer. Là.
C'est local,
désolé,
c'est bon. Hein?
C'est ça, on utilise beaucoup de Innomalt pour ça, le pale anglais, puis du Malbrou. Donc, Malbrou, c'est un autre malterie québécoise.
Pour tous les maltes cristal un peu plus anglais. Quoi.
Ouais.
Donc, c'est drôle de comme prendre des styles d'Europe, puis on adapte avec les produits qu'on a ici, mais c'est... Je trouve qu'il y a un charme pour ça aussi.
Bien sûr, le but, c'est pas de répliquer à la lettre ce qui se passe là-bas. De toute façon, on n'y arrivera pas. On n'a pas, le même matériel. On n'a pas la même eau. Voilà.
Mais quand même, vous devenez unique. C'est votre recette à vous. C'est votre création. Ce n'est pas copier quelque chose qui existe déjà.
Le but, c'est d'interpréter le produit.
Qu'est-ce que vous faites pour le style? Mais ceci vous représente. Vous avez fait un produit, vous êtes en Amérique du Nord, vous faites quelque chose d'intéressant. Donc, ça, voici notre recette à nous, puis venez découvrir.
Mais il y a une différence entre faire quelque chose d'intéressant puis être dans le style d'une bière. Tu sais, si tu veux faire une ESB, puis tu me sers une bière noire, dark, qui goûte la stout au chocolat, je vais te faire comme... Ah, ben j'ai innové, oui, mais appelle pas ça une ESB, c'est correct. Mais c'est d'avoir leur style, puis d'avoir aussi leur feeling de brasseur. Là, tu vas l'interpréter comme que tu as goûté, puis tu veux que ça représente qu'est-ce que tu as goûté et non qu'est-ce que tu vois dans la BJCP. Exactement.
Tu vas aller en Tchéquie, tu vas te balader. Aujourd'hui, il y a plein de microbrasseries, la plupart qui font toujours des pils, parce que les Tchèques sont très attachés à leur style.
C'est
ça leur tient
aussi
beaucoup à cœur. Il n'y en a pas deux qui vont être pareilles. Elles sont toutes différentes. Il y en a qui va avoir un peu d'acétyl, il y en a qui va être plus houblonné, l'autre, elle va être moins. t'as pas une pils, donc c'est forcément ton interprétation du style, et même ici, hein, au final, c'est pareil.
Oui, sauf que ça sera pas comme ultra houblonné comme quand t'es rentré ici avec la NEIPA que Louis a faite.
C'est deux mondes différents. Ouais. Il y a houblonné et houblonné.
Exactement. Pour toi, quand t'es rentré ici au Québec, puis t'as vu les styles qui brassaient, t'as sûrement fait comme ils viennent de scraper la batch. Ah, ben... On vendra jamais ça.
Tu fais tout à l'envers, tabarnak.
Je pense que je vais me passer une microbrasserie tout seul, en fin de compte.
Et que vous, vous travaillez quand même beaucoup. Commandeur, mais vous avez votre brewpub, vous travaillez fort. Commandeur, semaine, vous allez pouvoir vous impliquer pour votre projet.
C'est pas plus qu'un job normal. On est quand même... je sais pas, logique de comme avoir nos week-ends aussi, comme surtout en termes de brassage en arrière, puis tout ça, c'est comme vraiment comme lundi à vendredi, 9 à 5.
Après
c'est
votre
comme...
2 ans un peu dépassés, vous êtes capable d'avoir plus une vie, parce qu'on s'entend que partir d'une compagnie aujourd'hui demande beaucoup d'énergie, d'heures. Vous avez fait des rénovations, vous avez agrandi, vous avez travaillé pour la décoration.
Ben, je parlais... Au terme de brassage, moi, j'arrête pas parce que je
suis. Ah là, je m'en allais dire. Je suis comme moi. Je vais me passer une brasserie, là.
Ouais, non. C'est comme. Ben, tu sais, c'est quoi? C'est comme. Tu sais, le hamster, il travaille tout le temps. C'est comme tu veux tout le temps comme faire quelque chose sur des réseaux sociaux. Tu sais, comme. À 3 heures du matin, t'es comme, j'ai une idée.
C'est ça, exactement.
Donc, ça arrête jamais. Mais en termes de comme
présence ici,
on essaie de vraiment comme
faire des horaires corrects, normaux.
La différence, c'est qu'avant, ils sortaient dans d'autres bars, puis maintenant, ils sortent dans le sien.
Ouais, heureusement ou malheureusement, c'est vraiment comme on essaie de garder ça de 9 à 5 en termes de les gars en arrière, les mais filles, bon, ben, sont ici.
Tu rentres à la maison, tu continues à penser à ta bière, tu penses, en ce moment, on est à fond dans les étiquettes, on peut passer toute la soirée à communiquer entre nous, à se renvoyer des photos. Sur Photoshop, on est en train d'affiner des trucs et ça peut aller vite, quoi.
Quand... On travaille pas nécessairement à la brasserie en train de créer une bière, mais on travaille dans le brand.
Tu rentres chez toi, tu y penses, tu viens d'avoir une idée, le soir, tu arrives. Heureusement qu'il y a nos blondes, puis toi, tu as les enfants. Pour des fois, il faut déconnecter aussi.
C'est
quoi.
Ça, l'autre question. Par extension, comment vous êtes capable de manager famille, travail?
Parce ça, mon cœur, ça se fait tout seul.
Attends, oui, pour eux,
t'as pas le choix.
Pas nécessairement.
Ça dépend pas de toi.
J'ai eu 2 enfants en 14 mois, donc c'est comme. Ça rush pas mal chez nous, là. Puis, mais, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça ici. D'être ici comme tout le temps. Mais c'est impossible.
Ça te rendrait fou. Moi, ma blonde part pendant 10 jours. J'arrive pas à dormir parce que je pense que à ça. Le soir, je me fais des films et tout.
Pas à compter combien de fois qu'on s'est texté durant le week-end. C'est, on travaille même pas. Mais c'est comme... on a vu cette critique sur Untappd. Oh, on a vu cette check-in sur Capsule Bière. On a comme...
C'est ta deuxième blonde.
Oui. En fait, je parle peut-être
On partage pas
lui.
Les mêmes choses.
Ouais. Je parle peut-être plus avec lui que ma blonde.
Ça veut dire que c'est comme rendu sans être un partenaire. C'est pratiquement un partenaire de brassage.
Ouais,
non, ben, c'est un ami de brassage.
Puis tu le prends aussi vraiment personnel. Quand tu viens ici, tu donnes ton 110% à toutes les fois.
Ah, ben moi, je viens pas pour le salaire, hein, c'est clair. Moi, je viens pour parce que je trouve Drew, parce que je retrouve mes bières qui sont en train de fermenter, que sans Covid, je revois les clients qui sont en train de boire mes bières et qui nous disent des feedbacks dessus. C'est ça qui
m'a... T'es un vrai, vrai, vrai passionné de bière.
Ah, il faut, hein, sinon, tu vas pas rester longtemps. Hein.
Et pour ceux qui veulent partir une microbrasserie ou un brewpub, rappelez-vous, vous êtes pas là pour devenir millionnaire, vous êtes là parce que vous êtes passionné puis vouloir partager de la passion avec tout le monde.
Mais je trouve que vraiment, ça paraît dans les bières. T'sais, ils font pas des bières nécessairement pour vendre des bières. Ils font des bières parce qu'ils aiment les bières qu'ils font. Et ils font des bières pour partager la passion la bière. Surtout quand tu viens de l'Europe, comme Christophe, puis qui peut, s'il voudrait, il ferait juste des Pilsner Lager, vraiment sa coche, comme qu'il a appris. Mais tu sais, lui aussi, il apprend parce que...
Il est en train d'être perverti avec les New England.
on a un nouveau style. S'il voudrait, il resterait dans son style. Avoir des œillères, puis vouloir perfectionner ce qu'il a appris, ce serait les meilleurs au Québec.
Puis il faut il faut aussi mettre des bières dans le drain.
Ah, tu fais ça des fois?
Oui, oui. Oh, oui, non, fait, non, c'est
à
sûr.
La maison, si vous nous écoutez et vous fabriquez votre bière, écoutez ce qu'il vient de dire. Même un professionnel puis deux professionnels ensemble sont capables de dire que leurs bières sont
pas bonnes. Pas de faire ça chaque semaine.
Ça coûte cher.
Mais ça coûte cher.
Il
n'y
a pas un cours au brasseur.
Mais si ça arrive pas à tes goûts ou il y a vraiment quelque chose...
Une infection, un exemple, pourrait pas arriver, là.
Ouais. Mais encore là, c'est plus important pour toi de dire que ce produit vous reflète que de dire que je veux faire de l'argent pour être capable de passer un produit au lieu de perdre de l'argent. Ouais. Votre nom est plus important versus la qualité de votre produit parce que vous avez des standards très élevés.
Ah oui, non, c'est ça. On s'est parlé de ça la semaine passée ou la semaine avant. C'est comme, ben, on parlait en termes de bouffe. C'est comme, il y avait un plainte de bouffe, quelque chose de comme trop cuit, puis tout ça. J'ai comme, ben, prochaine fois que tu viens ici, ça va être gratuit.
Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui est plate, par contre, c'est que je comprends, parce que j'ai une business, moi aussi, je travaille avec les réseaux sociaux toute ma vie, la preuve, c'est mon réseau social présentement. Puis qu'est-ce que je trouve plate dans qu'est-ce que tu dis? C'est qu'on va se forcer pour quelqu'un qui n'a pas eu un bon service.
Oui.
Parce qu'on veut pas qu'ils mettent un mauvais commentaire, puis je suis le premier à aller voir les mauvais commentaires quand je vais voir une business ou peu importe. T'sais, je vais aller voir c'est quoi qu'ils ont pas aimé au lieu d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont aimé. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un consommateur d'aller dire que c'était pas bon au lieu d'aller dire qu'ils ont eu une bonne expérience. Si tu calculerais le nombre de personnes réelles qui aiment tes produits, qui aiment ta bouffe, contrairement à ceux que nous, en tant qu'entrepreneurs, on met toute notre vie dans notre business, là. Tu sais, c'est littéralement ça. Puis on met une vie complète, puis quand on se fait dire quelque chose de négatif, ça vient nous toucher tellement profond qu'on veut tout faire au complet qu'on peut pour pouvoir relever ce commentaire-là. Mais si tout le monde qui aime notre bière ou qui aime notre service mettrait un commentaire sur Google ou sur Facebook...
Ben, à même temps, c'est comme... peut-être à donner le moteur de quelqu'un pour donner du bon avis, tu sais, quand on t'a ouvert. Merci COVID, by the way. mais on avait, quand les gens commandaient des plaques...
de dégustation?
Des plateaux de dégustation. On mettait une carte. Un bar, c'était comme toutes les bières qu'ils ont commandées, puis l'autre bar, c'était une fiche de commentaires.
Mais c'est bien d'avoir des commentaires aussi.
Ouais.
D'avoir un commentaire, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais comme que j'ai tout le temps dit à mes clients, puis je l'ai tout le temps dit aussi dans les podcasts souvent qu'on en fait, appelle pas le micro pour lui dire « Ouh, va pas si capsule bière » comme que tu regardes des fois, puis dis « C'est de la merde. » Là, tu fais comme « OK, il a pas aimé ça, mais comment je peux m'améliorer? » Puis là, quelqu'un pose « Mais quoi, t'as pas aimé? C'est de la merde. » C'est pas constructif, ça démolit le micro, puis c'est pas bon. Si quelqu'un t'appelle puis dit « Écoute, ta bière goûte le diacétyl », ben là, vous êtes deux professionnels quand même qui vont aller goûter la bière puis faire comme « Et Chris, on y avait pas goûté, mais oui, ça goûte le diacétyl. » Je suis certain que tu vas être le premier à enlever le keg, de flusher et de recommencer.
Une Pilsner check un peu de diacétyl.
Non, mais ça peut passer dans certains cas. Mais OK, je
te niaise.
Mettons comme No Kenneth. Là, on commence à voir plus en plus de check-in sur OnTap et tout ça. Mais l'affaire, c'est chicken. Comme...
Chicken.
Il n'y a pas beaucoup de gens sur OnTap qui mettent des commentaires sur des bières, malheureusement. Tu devrais mettre
OnTap.
Des
mais parce que justement, vous avez... Là, c'est nouveau pour vous, les canettes. Donc, la majorité du temps, les gens qui vont sur OnTap, c'est parce qu'ils ont acheté leurs produits... en canette ou dans un dépanneur.
Ouais.
Là, c'est nouveau pour vous.
Oui.
Ben,
tu sais, il y avait des cruchons avant et tout ça. Puis, oui, la bière change un peu quand c'est en cruchon. Donc, on est mettons, comme les commentaires sont plus peut-être honnêtes ou plus accurate en canette. Mais de voir qu'est-ce que les gens disent versus comme, tu sais, les... C'est un bon boost pour notre ego, puis tu sais, oh, on a eu un 4.5. Mais pourquoi, c'est plutôt on check tout le temps comme, oh, 3.5 parmi les 4.0, 4.5, tout ça, ou les 5.0, c'est comme, mais qu'est-ce qu'il a pas aimé?
Oui, mais tu te rappelles-tu quand tu allais dans un bar, ou quand tu allais acheter de la bière de micro d'un autre, avant d'être professionnel, là?
Ouais.
c'était souvent l'ambiance dans laquelle tu buvais ta bière qui faisait en sorte que si tu aimais ta bière ou pas.
Ouais.
Tu sais, on vient ici, puis depuis que tu es ouvert, moi, personnellement, j'ai plein de clients. J'ai un domaine de bière amateur. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de clients qui venaient ici, puis qui étaient comme oh, man, c'est écœurant, c'est vraiment cool, je voulais pas y aller. Tu m'as fait y aller parce que, tu sais, on avait peur d'y aller. Tu sais, on pensait de se faire refuser à la porte parce que. On n'était pas de la place, tu sais. Puis là, je dis, non, vas-y, tu vois, il parle même français. Le monde me craint pas. Il parle pas français, je te jure qu'il parle français.
Il n'y a pas de flèche.
Non, c'est ça. Puis.
Je suis venu pour des flèches.
Les plumes, sa tête. Y'a-tu des plumes, le brasseur? Non, il vient de l'Europe, le brasseur. Mais, joke à part, le monde, il venait ici, puis l'ambiance que t'avais, il y avait tout le temps du monde. Tout le monde, il y a personne qui te regardait croche. Quand tu rentrais, tout le monde était comme heureux de te voir rentrer. Autant les clients, les locaux qui étaient ici, qui voulaient t'encourager, autant les visiteurs qui étaient ici, que tout le monde, quand rentrait, tout le monde était heureux de voir une nouvelle face qu'ils n'étaient pas habitués de voir.
Mais bien sûr. Et puis, moi, je peux te raconter ma première expérience en venant ici. Hein. Oui. C'est, tu sais, je venais... Donc, en fait, à l'époque, je m'étais inscrit sur la liste de mail du club brasseur amateur Montrealers.
Oui.
Puis Drew, il publie une annonce, il y a plein de réponses, tout le monde est intéressé. Je me dis, bon, c'est mort, on va chercher autre chose. Deux semaines plus tard, il republie un mail. Bon, j'ai toujours personne. Dernière fois que je publie une annonce, après, je la mets sur Indeed ou sur un site d'annonce pro. Donc là, je lui réponds, puis on commence à communiquer. Donc je fais à ma blonde, viens, on va voir à quoi ça ressemble cette microbrasserie. On va aller chez les Mohawks, on va aller voir ça. Puis là, on arrive, on se perd dans Kanawake. Tu sais, moi, ça faisait 2 mois que j'étais au Canada, j'y connaissais rien du tout. Puis là, je rentre dans la réserve, je suis perdu, je suis là, oh là là, c'est bizarre ici, je sais pas trop où aller, etc. Bon, on finit par arriver à la microbrasserie. Puis là, tu sais, je dirais que j'ai eu ce sentiment d'être dans une microbrasserie familiale où il y a tellement d'amour qui est rentré dedans, quoi. Les serveuses étaient sympas. Bon, on parlait anglais, mais nous, ça nous va très bien. Puis. Il y avait du bois partout, tout était fait un peu maison, puis tu te sentais bien, c'était chaleureux, exactement, quoi. Puis les bières, elles étaient bonnes aussi, je me suis dit, tiens, ça me plairait d'être dans cet endroit-là.
Tu as testé avant de vouloir travailler ici.
Oui, bah bien sûr, moi j'ai fait ma petite recherche de mon côté.
mais comme que tu disais, tu es venu ici, tu as été bien accueilli, tu as trouvé ça chaleureux, nécessairement les bières vont être meilleures. Mais que tu t'arrives avec ta blonde, tu viens de te prendre avec ta blonde, tu dégustes la bière que vous avez faite, tu fais comme...
On fait la paix.
Je m'en vais sur une tape, puis je vais faire un mauvais commentaire, j'y mets un 3,5 parce que t'étais déjà fâché avant de la boire.
Oh, oui.
Tu viens d'un endroit, bien peu sûr, importe l'endroit, t'es sur le bord, mettons, du Saint-Laurent, avec la grosse vue, puis tu prends une bière, même si c'est correct... Tu vas la trouver extraordinaire.
Même si c'est une bud, tu vas la trouver bonne.
Ben exactement, parce que tu vas pas comme... Wow.
Ouais. Mais je goûte le riz à la chêne. Je goûte le chêne.
Ouais, le chêne. Le 3% de vieillissement de chêne.
Mais
ouais.
Pour quelqu'un qui vient de l'Europe, la bud, tu la trouves comment?
Je la trouve trop sucrée. Pour moi, c'est un jus de malt hyper sucré.
Puis la boulevard?
Attends une minute, là. Il vient de dire qu'il la trouve trop sucrée. Il a mis vraiment un qualificatif.
Finis ton secondaire.
Exactement.
On va chercher un autre.
Il y a des mots de même que j'ai de la misère à tout le temps prononcer.
Non, la bud est très clean. Il y a des esters sympas, un petit peu de banane et de pommes. Mais pour moi, c'est imbuvable parce qu'en Europe, on est surtout en Tchéquie, Allemagne, on est habitué à des bières qui sont amères. La bière, c'est amère chez nous.
Ouais, ouais.
Puis moi, je veux bien. Ça reste une bud hyper industrielle, macro. C'est des Brésiliens, Belges, tout ce que tu veux. Ça reste trop sucré pour moi.
T'es la première personne que je rencontre dans ma vie, je te le jure, qui est capable de donner quelque chose au goût qu'il a trouvé.
C'est de toute beauté.
Normalement, le monde me dit « Ça goûte la pisse! » Puis là, je leur réponds...
Je peux te le dire aussi.
Non, 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 non. Mais je leur réponds la même chose. Si ta pisse goûte ça...
J'ai pas goûté encore.
Ouais, mais...
Y a-t-il de l'alcool dedans?
C'est une des bières les plus vendues qu'il n'y a pas en Amérique du Nord.
Mais parce que l'amertume, tu sais, au début, c'était une lager comme toutes les autres. Mm-hmm. C'était brassé par des Allemands immigrés ici, puis c'était amer. Sauf que les études de marché ont confirmé que plus tu baisses l'amertume dans une bière, plus c'est accessible à tout le monde. Parce que les gens, en général, l'amertume, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils aiment le sucré, les gens.
Ouais, exactement.
Et donc moi, je la trouve sucrée. Ouais. Même si ça peut être une bière bien faite, qui va pas être oxydée, qui va être soignée, on va dire.
C'est leur style, en fin de compte.
C'est leur style. Et du 9 IBU, C'est une blanche d'habitude, c'est un truc comme ça. C'est une petite...
Mais c'est plaisant.
Commence pas de parler des bières lactose avec lui.
Ah non, un milkshake?
Moi, la voiture,
ça te fait péter.
je me prends un cruchon et je me tasse.
Fait que t'es beaucoup plus côté amertume, franche.
Ben, pour moi, la bière, c'est une question de buvabilité. Et tout ça, c'est une balance entre le sucré du malt ou les sucres résiduels, mm-hmm. puis l'amertume, quoi. Donc,
tu
trouves la parfaite balance, ça fait que c'est assez amer, mais pas trop pour que tu veuilles en reprendre une autre.
Et c'est pour ça que tu parlais des bières belges qui venaient pas te chercher, parce que généralement, les bières belges sont beaucoup plus sucrées.
Sucrées et très lourdes. Les esters, puis le sucre résiduel, l'amertume quasiment... pas absente, mais très faible. C'est pas des bières que tu vas boire en quantité. Forcément, c'est des bières très fortes en alcool. Donc,
Fait que présentement, on a fait une petite coupure pour prendre un petit break. Fait qu'on va revenir sur un sujet qu'on parlait pendant qu'on est en train de déguster une bière sur le bord du bar puis que j'en mette dehors. Les levures.
Oui. Super intéressant. C'est qu'on parlait des levures. Qu'est-ce qui était intéressant? Oui. C'est que tout dépendant des microbrasseries, est-ce que vous prenez des levures fraîches? Est-ce que vous récoltez vos levures? Est-ce que vous faites un mix de moitié harvest puis moitié frais? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour... C'est quoi vos tests? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le résultat de produit que vous avez?
dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un peu de tout. On achète des nouveaux pitchs. On achète soit quelques paquets de le brasseur Delson. Tu devrais aller, by the way, pour acheter tous tes produits de brassage. C'est soit on achète quelques paquets puis on prend des propagations, soit on achète un pitch nouveau, oui, ou on achète levure sèche ou pas sèche, whatever. Donc, on fait un peu de tout. Je vais laisser la question plus technique.
Bon, après avoir lu des articles scientifiques qui étudient pas mal les différentes souches, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient plus pour la recherche. Mais bon, il y a eu des recherches sur des souches commerciales qui ont révélé qu'après avoir fait des PCR, on se rend compte que certaines lagers ne sont pas forcément des lagers.
Puis tu expliquais comme quoi que...
Mais qu'ils viennent... De toute façon, les origines des souches commerciales, ça a toujours été très flou. Hein. Mm-hmm. Tu sais, c'est des brasseurs passionnés qui ont pu visiter une brasserie, qui disent qu'ils ont récupéré leur levure là-bas, mais en fait, on n'est pas trop sûr de si ça vient vraiment de là-bas ou pas. Donc, en l'occurrence, c'est exactement ça. Et donc, les recherches ont prouvé que la levure qu'on pensait lager par excellence n'était en fait pas une lager, était plus une levure ale. Et ça remet pas mal de choses en question dans toute la banque de levures commerciales. Les sources, c'est pas 100% sourd du tout. C'est...
Fait que quand on parle comme quoi qu'une levure pourrait être la même similaire s'ils n'ont pas eu de la même source.
Franchement, il faut le tester soi-même. C'est un indice, peut-être, à essayer. Et puis, à toi de voir si tu penses que vraiment c'est proche ou c'est la même, ou
puis,
alors si c'est deux levures différentes.
Et souvent,
même si on écoute à d'autres publications, des podcasts, mettons Craft Beer and Brewing, podcast, quelque chose comme ça, il y a plein de gens qui disent comme, c'est pas nécessairement White Yeast ou White Labs ou Imperian comme les plus gros, Omega, whatever. Mais c'est comme aux States, on peut peut-être plus accès à comme, des plus petits. Ils disent souvent que ça varie à chacun labo d'un autre.
Bien sûr, puis
ça varie.
Tu le vois chez toi, tu le vois dans ta brasserie, chez nous, on l'a vu. On a repitché la USO 5 pendant, je vais aller à 8 générations. La levure a évolué au fil des générations. Donc, comment est-ce que tu veux qu'une levure que tu récupères dans un labo, tu vas l'implanter chez toi, elle va forcément évoluer, elle va muter un petit peu, elle va s'adapter à son nouvel environnement. Tu ne peux pas attendre de cette levure que ce soit deux exactement mêmes souches qui ont exactement les mêmes esters, les mêmes propriétés de fermentation. C'est impossible. Donc, il faut trouver son goût, quoi. Faut trouver sa préférence.
Comme Christophe dit, il a multiplié la même levure et il s'est muté dans sa brasserie. Fait imaginez un labo qui a d'autres souches présentement dans l'air. Parce qu'il faut voir la levure comme quelque chose qu'on ne voit pas là, présentement à l'œil nu. Là.
Ouais.
Fait que, il y a tout le temps un intrus qui peut s'incorporer dans une autre souche et qui va donner un goût complètement différent.
En là. Fonction de l'environnement dans lequel elle croît, la levure va s'adapter. Et puis, ce qui fait que les goûts, les propriétés, son comportement va être aussi différent.
Mais avoir travaillé dans des grosses brasseries en Europe, puis avoir les souches disponibles au Québec présentement par d'autres laboratoires, tu vois une différence.
Les grosses brasseries en Europe, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, elles ont toujours leur culture de levure d'origine qui est stockée à moins 80 degrés sous azote pour qu'elle reste toujours constante. Et dès qu'elle voit une petite dérive, chez Bud, je ne vais pas le cocher, c'est trois générations. À partir de la troisième, peut-être quatrième génération, si tout va bien, on refait une propagation à partir du stock original, quoi, pour être sûr que ta bière reste toujours dans les normes, quoi. Ensuite, on l'utilise pour des bières de moins bonne qualité, parce que la Bud, chez Bud, c'est le top. Mais
tu as eu la possibilité de travailler dans des places qui avaient une levure originale.
Oui, exactement. Oui.
Et présentement, ici, tu as un
leur clone. Levure, c'est leur trésor, quoi. Hein. Que ce soit Budweiser, que ce soit Heineken. La Heineken, qu'est-ce que c'est à part du malt pilsner et du houblon lambda qu'on ne ressentira jamais? C'est la levure qui fait la différence.
Exactement.
Et ils y tiennent énormément. Ici. Mais la bière blonde, c'est hyper important chez nous parce que c'est le plus gros vendeur. C'est la bière que les gens ils vont acheter en arrivant.
Ouais.
Et c'est aussi une bière assez clean. Et donc, il faut qu'elle soit tout le temps comme les gens ils l'aiment. Et donc, pour ça,
on dirait comme la bière la plus simple, la plus clean que tu veux.
Plus difficile à faire.
La plus difficile à faire.
Et que les gens qui viennent ici, je sais qu'au Québec, l'IPA et la New England IPA est la plus forte. Est-ce que c'est quand même votre plus gros vendeur?
Non. Non.
Et que les gens qui viennent ici, est-ce qu'ils disent je veux une bière blonde parce qu'ils savent pas, peu importe, ils demandent une bière blonde parce qu'ils n'ont pas d'opinion ou de connaissance en arrière?
Il ne faut pas oublier qu'on est un peu à la rencontre de deux marchés différents qui va être le marché de la réserve où beaucoup de gens sont habitués à des bières clean, faciles, du type
Lager,
Molson, Budweiser. Et puis, de passionnés de bière qui viennent chercher un peu de la micro-brew.
Ouais.
Il faut satisfaire tout le monde, et en particulier déjà les gens qui sont d'ici et qui viennent chez nous. Donc, ça va être la blonde qui va t'acheter en priorité.
Mais honnêtement, c'est comme entre notre blonde ou notre pale ale, c'est un ligne vraiment comme... Est-ce que les gens sont prêts à déguster quelque chose un peu plus intéressant? Je pense que oui.
Mais il y a beaucoup de monde présentement dans le monde de la micro. Tu peux avoir des gigs comme un peu ma clientèle à moi, qui est du monde passionné de bière, qui en font, puis qui veulent venir goûter des produits d'exception chez toi qui sont pas capables de faire à la maison. Autant tu as la personne qui commence à s'intéresser à la bière artisanale. Ben,
c'est totalement le but de ce bar, au final. C'est que, tu sais, en tant que bière artisanale, on est déjà une fraction du marché de bière totale. Hein.
Exactement.
Faut pas se leurrer, il n'y a pas 100% des gens qui boivent de la bière qui boivent des craft beer.
Non, exactement.
Donc, on est déjà un petit pourcentage. Si en plus, les gens qui viennent, tu veux les avoir avec quelque chose, ça va être déjà avec ta blonde que tu as brassée ici et qui va forcément avoir plus de goût, de caractère que ta bière lambda commerciale.
Exactement.
Et après, doucement, tu vas les switcher sur tous les autres styles de bière. Donc, nous, on va commencer avec la Pale Ale, qui est la Hazy Pale Ale, qui est très simple au niveau malt. C'est du Pilsner et un petit peu de protéines. C'est hyper houblonné, mais vraiment pas amer. Puis doucement avec ça, tu vas les envoyer vers d'autres horizons, quoi. Et puis c'est comme ça que tu leur fais découvrir tout le monde de la bière qu'au final ils connaissent pas forcément.
Alors, à cause des coupures qu'on a eues des fois, si vous avez de la misère à comprendre, on va revenir ici, on va faire d'autres podcasts avec Drew, avec Christophe, pour vous expliquer comment faire de la bière. Éventuellement, si les propriétaires veulent, on va être capable de vous montrer exactement dans la brasserie comment fonctionne leur système. Restez à l'affût parce que peut-être une petite collabo entre le brasseur et Kanawake Brewing.
Oui.
Ça se discute,
Ça se discute, comme dirait que Christophe.
Ça se négocie.
Puis d'ici là, passez un bon moment.
Tout le monde, un gros merci.
Bonne brasse, tout le monde.
Cheers,
allez,
c'est bon. Good!